Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG, ce qui m'a marqué cette semaine, c'est une image, ce sont des images sur le Tour de France avec ces masques, vous savez les fameux masques que l'on a vus pendant le Covid pour se protéger, ou la Covid, c'est selon. J'ai jamais vraiment su. Hein, on a jamais
fait.
Il y a deux écoles, exactement. C'est comme ceux qui disent le Wi-Fi et la Wi-Fi, c'est les mêmes. Ouais, sur le Tour de France, on a revu les masques pour se protéger de la maladie et des virus. On a vu Paul Sexas qui en a un désormais le matin. Vous avez écouté Léna Marjac tout à l'heure qui nous a dit que même maintenant, il utilise un stylo de son équipe pour ne pas prendre un stylo du public et se mettre à l'abri d'éventuels...
Nettoyer avant et après.
Ah non, mais t'imagines, ça y est, on arrive à un niveau maintenant. On avait Vingegaard pareil. Donc, on sort à nouveau les masques. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce que votre corps, c'est votre outil de travail hein, quand vous êtes sportif de haut niveau. Alors, comme dans certains corps de métier, évidemment. Mais vous, voilà, c'est vraiment dans la compétition. J'aimerais qu'on parle de ça sur la peur de tomber malade quand on est sportif de haut niveau ou la gestion de tout ça dans la discussion. Pascal, alors toi en plus manager aussi derrière, ultra attentif, ça. Est-ce que tu étais un manager, est-ce que tu es un manager hyper, hypochondriaque pour tes joueurs?
Non, mais très attentif par contre avec avec le staff médical. Et ça tranche avec ma carrière. Bon, c'était il y a bien longtemps où il n'y avait pas autant de suivi, où il n'y avait pas de précautions qui étaient prises, ou en tout cas beaucoup moins qu'il y en a aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est leur outil de travail et dans un domaine extrêmement concurrentiel. Un joueur qui est arrêté une semaine ou 15 jours parce qu'il a fait preuve de négligence sur son alimentation, sur le fait de se couvrir, de pas choper de grippe ou quoi que ce soit, ou de faire l'économie du vaccin, parce que certains le font pour ce qui est du vaccin de la grippe, eh bien ça peut te ruiner une carrière, ou en tout cas ça peut faire en sorte que ton concurrent, parce qu'ils en ont, ton concurrent te prenne ta place.
Non mais quoi, donc, t'étais attentif au vaccin de la grippe de tes joueurs par exemple?
Oui,
c'est vrai.
Sûr, oui.
Ah ouais.
Bah, tu peux pas les obliger, mais par contre, je leur conseillais au même titre que les médecins.
Tu disais quoi? Tu disais, toi, le défenseur, montre-moi ton carnet de santé.
Non, je lui disais, écoute, c'est sans risque pour toi, et c'est sans risque pour toi, et tu diminues la probabilité de choper la grippe.
À quel point t'étais derrière eux, même au quotidien, sur d'autres choses?
Bah, je sais pas, par exemple, quand je voyais un des mecs, quand j'entraînais Evian Tonon Gaillard, mon club de cœur, quand je voyais en hiver les joueurs sortir de la douche après le match, monter dans le bus sans bonnet, sans rien, ça me rendait fou. Franchement, discrètement, je trouvais les mots pour leur dire, mais t'es inconscient. Mais franchement, si tu viens choper la grippe, tu t'imagines.
T'étais comme Giroud, en fait. Giroud qui mettait les bonnets à Djibril Cissé.
Attention, Giroud, il a... Giroud est exceptionnel. Je n'étais pas Giroud. Je n'étais pas loin quand même.
Tu mettais un bonnet à la sortie de la douche, Pierre, quand il faisait froid?
C'est possible que j'ai oublié quelques fois.
Et je pense que certains de tes managers te l'ont rappelé gentiment. C'est arrivé.
Moi, c'était plus une psychose collective, une psychose, entre guillemets, à l'approche des grands événements. C'est-à-dire à des phases finales, des matchs qui comptent, voilà, où là il faut pas rater l'échéance, donc tu fais peut-être plus attention que tout au long de l'année, ou parce que ce que tu disais Pascal, un joueur ou une joueuse qui tombe régulièrement malade parce qu'elle s'alimente mal, parce qu'elle se couvre pas assez, parce que elle a pas les bons réflexes, quoi. La sportive ou le sportif, il se met une balle dans le pied tout seul en faisant ça.
Mais ça veut dire quoi à l'approche des grands événements, des grandes finales?
C'est plus la psychose que toi individuellement tu rates.
Tu prends un gant pour prendre la barre dans le métro?
Non, pas jusque là, mais c'était avant Covid, bien avant. Je pense qu'il y a aussi maintenant.
Non, mais bien sûr.
Notamment, tu vois le masque, etc. Ça vient vraiment de, je pense, depuis le Covid ou la Covid.
Non, mais du coup, c'est quoi? Tu faisais plus attention à
oui, tu fais
je
plus
sais bien. Pas ce que tu manges, à prendre plus de vitamines. Pas traîner avec tes potes qui sont malades.
Ouais, voilà, tu fais peut-être plus attention au contact avec les autres. Moi, c'est peut-être plus ça qu'on te refile quelque chose, quoi, tu vois. Voilà, donc,
le sommeil, la récupération, l'alimentation,
oui, mais ça,
tout ça aujourd'hui, c'est normalement.
T'as connu des
coéquipiers? Davantage quand t'approches des grandes compétitions ou des matchs qui comptent pour toi. Ouais.
Des coéquipiers hypochondriaques à l'approche des grandes compétitions? Des grands moments?
Il l'était déjà le reste de l'année.
Ah ouais?
Bah oui, il y en a toujours, hein, dans des groupes, t'as toujours des mecs hypochondriaques et d'autres qui sont pas très sérieux dans le dans ce que disait Pascal.
Mais qui était tout le temps malade, par exemple?
Le mec veut me tirer les vertus.
Alors, en fait, il veut que tu balances.
Il y avait des mecs qui étaient malades à l'entraînement. C'est vrai que là, on en a parlé.
Mais toujours apte le match.
Ouais, exactement. Non, mais c'est Christophe Dominici. Ça me fait plaisir d'en parler. Mais Christophe, il avait souvent des angines blanches. Et moi, j'avoue que je voyais pas trop ce que c'était, les angines blanches. Mais lui, il en avait une tous les 15 jours. Après, généralement, le jeudi ou le vendredi. Mais bon, il était toujours tellement fort lui. Les angines blanches étaient assez récurrentes.
Du lundi au jeudi.
Du lundi au jeudi. Sarah, on parle de la peur de tomber malade quand on est sportif de haut niveau. Est-ce qu'il y a une petite psychose? C'est vrai que y a l'alimentation notamment, on fait attention.
Oui. Ah oui, je dirais. Enfin, psychose, je ne sais pas. Mais disons que comme on est dans un sport individuel, on choisit l'hôtel où on veut descendre. On choisit a priori les, enfin comme c'est une petite équipe qui se déplace, donc tu choisis les restaurants où tu veux aller dîner. Je dirais que les choses qui étaient psycho, je sais pas, mais auxquelles il fallait faire attention, c'est les fameuses clim. Parce qu'en fait, surtout pour les Européens, quand on vit pas dans des pays comme la clim et que tu débarques sur une tournée en Amérique, aux États-Unis,
la clim, c'est l'ennemi des sportifs, là-bas. Hein. Ouais.
Ah mais c'est terrible, c'est-à-dire que quand tu montes dans les bus pour t'amener sur les sites qui enfin le shuttle, le fameux official shuttle de l'hôtel jusqu'au lieu d'entraînement, au lieu de match, tu rentres dedans, il fait -50 et là il faut qu'on fasse attention parce qu'on n'est pas trop habitué, donc il faut.
Mais c'est ce que vivent les joueurs de l'équipe de France en ce moment aux États-Unis certainement.
Oui.
Hein.
Exactement, mais eux, comme ils montent dans leur propre bus, ils décident la température qu'ils veulent mettre. Nous, le chauffeur, il est américain, il a toutes les nationalités.
Tu
commences
pas
à dire, vous baissez la clim, quoi.
Vous coupez, tu coupais la clim en rentrant dans ta chambre quand t'étais joueuse pour pas.
Ah oui, oui.
Faire attention.
Ah bah ouais,
Pierre,
bah oui,
toi aussi,
oui,
tu coupais la clim. La nuit, tu coupais la clim. Pascal, t'enlevais la clim sur dans les.
Ça n'existait
pas.
T'avais le ventilo. C'était le ventilo.
Tu récupérais tous les éventail. Pascal. Non mais Sarah, ouais, sur ça.
Et après il y avait les gastro et oh, après il y avait les player lounge, bon là où finalement on déjeune tous et suffit qu'il y ait une, enfin c'était souvent des buffets ou c'est des restaurations qui sont mises pour l'événement, donc peut-être qu'il n'y a pas toute la chaîne du froid qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas.
Ah, mais t'as dû faire des tournois
un petit virus,
un peu,
une salmonelle.
Un peu obscur.
Ouais. Oui, et tu sais quoi? Et en parlant hier, je viens d'avoir un deuxième exemple qui est, je vais vous raconter, qui est super rigolo. Là, j'étais en Ouzbékistan. Je jouais la demi-finale. J'étais tête de série 1. C'était la semaine avant Wimbledon. Je voulais avoir des matchs gagnés pour reprendre confiance. Et donc, je dois jouer une Ouzbék en demi-finale. Et j'ai mangé du riz blanc pendant toute la semaine. Hein. J'ai rien touché à on parle de l'Ouzbékistan il y a 22 ans. Hein. Donc, autant vous dire que il y avait que du riz blanc. Et j'avais faim avant la demi-finale et j'ai voulu toucher à autre chose. Bah, je vous le mets dans le mille. J'ai pas pu rentrer sur le court. J'ai pas pu rentrer sur le court le lendemain. Donc, j'ai dû faire WO. Et le match était télévisé parce que je jouais une Ouzbék. Quand je suis allé chercher mon prize money, on m'a dit, vous avez une amende. J'ai
mis c'est quoi ça?
C'est walkover, c'est-à-dire que je rentre pas sur le court, je peux pas.
Excuse-nous,
gastro. Voilà. Ouais. Et donc je prends une amende et je vois -$500 sur mon prize money qui était déjà pas très élevé.
Ah oui, dans son monde, t'es malade et t'as pris une amende.
Et je lui dis, mais pourquoi vous me retirez de l'argent? Il me dit, bah parce que vous êtes pas présenté, que nous on avait vendu le match à la télé. Ah bah oui, donc eux ils ont eu une perte. Et donc en plus de pas jouer la demi-finale, j'ai en plus perdu du prize money. Et une autre, c'est mon premier Roland Garros. J'ai donc 17 ans. Et donc vous savez, avant que Roland Garros commence, il y a le Kids Day. C'est les fameux matchs d'exhibition qu'on peut jouer
pour les enfants.
On peut ne pas. Pour les enfants, mais c'est des matchs d'entraînement. C'est des matchs d'entraînement pour en condition de match. Et moi, c'est mon premier Roland Garros. Donc j'ai une wild card. Donc je suis invitée. J'ai 17 ans. Et donc je joue. Je sais même plus contre qui je joue. Et donc je joue le match. Et à un moment, l'adversaire me sert un service dans le corps. Et au lieu de mettre ma raquette, je mets ma main gauche parce qu'elle me rentre dans le ventre en fait. Et puis la balle tombe et elle me touche pas plus que ça. Et donc je vais me replacer pour servir. Et là, je regarde ma main gauche et je vois un œuf de pigeon sur mon petit doigt. Et là, je cours dans la glacière pour mettre la main dans la glacière. Donc, j'arrête le match d'exhibition. Et donc, on m'emmène tout de suite faire des radios, machin. On dit, bah, vous êtes cassé le petit doigt. Et là, je me mets à fondre en larmes. Et le radiologue, il dit, mais c'est pas grave. Vous êtes droitière, vous allez pouvoir passer le bac. Ah, je fais, non, mais je m'en fous du bac, monsieur. Je devais jouer Roland-Garros dans 48 heures et toucher mon premier prize money, qui à l'époque était de 10 000 francs, 1 500 euros. Et c'était beaucoup parce que ça payait mon billet pour aller à l'US Open. Et donc, mon premier Roland-Garros, je ne peux pas le jouer parce que je me suis blessée bêtement.
Ah mais là tu t'es blessée.
Ouais, et après je n'ai plus jamais tous les Roland Garros, je n'ai plus jamais joué les Kids Day
parce que je voulais pas me blesser en touchant la balle. je me suis dit c'est quand même.
Non, c'était la blessure bête de voilà, c'était pas la maladie, mais donc je n'ai plus jamais joué cette journée d'exhibition parce que je voulais être sûre de pouvoir jouer. Mais
en fait le truc c'est qu'il faut quand on est sportif de haut niveau, j'imagine que parfois on doit presque avoir envie de se mettre dans le papier bulle, hein, tellement il faut faire attention pour être au niveau. Tu sais, on est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, la peur de tomber malade quand on est sportif de haut niveau. Pascal, juste avant de t'écouter, moi j'ai le souvenir la semaine dernière, quand on était à Barcelone avec Marc Madiot, en allant au studio, et il nous a expliqué que désormais, pour leur nuit à l'hôtel le soir, la veille à chaque fois, ils ont quelqu'un de leur équipe qui vient et qui change tous les matelas. Et qui en fait dératisse pratiquement les chambres des coureurs et notamment la climatisation pour tout nettoyer en fait, pour que les coureurs justement arrivent dans un environnement le plus clean possible, quoi. C'est Tchernobyl.
Mais
en fait.
Est-ce qu'on en fait pas un peu trop?
Oui, mais alors Marc nous disait.
Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tombé dans l'excès?
Ouais, ils changent les matelas. Ils ont chaque. En fait, ils viennent avec leur matelas. Ils viennent avec leur matelas. Et leur cuisine. Ouais. Tu savais pas Saint-Pierre maintenant? C'est comme ça sur le tour. Hein. Ah, en fait, ils arrivent dans l'hôtel, ils font la révolution, les mecs.
C'est pas une question de confort. C'est
pour une question de confort.
Le matelas
et pour aussi, j'imagine. Acariens, tu vois, les trucs comme ça,
les
allergies. Thibaut Pinot, qui était qui était souvent malade, qui était assez sensible justement à tous les virus qui traînaient sur le tour, Marc nous disait que il y a eu quand même une incidence derrière pour Thibaut. Alors est-ce que c'est aussi, je sais pas, dans la tête, hein, peut-être, mais en tout cas ça a servi. Pascal, tu voulais rajouter un truc?
Oui, parce qu'il y a le grand paradoxe du haut niveau, les sportifs, en fait, plus ils sont affûtés, plus ils sont fragiles.
Ah oui.
Plus un sportif est prêt, plus ses défenses immunitaires, elles sont moindres.
C'est vrai.
Parce qu'il est à son pic de forme. Et c'est souvent là que tu chopes le truc qui va te clouer, alors que tu as fait moult efforts pour être à ce pic de forme. Donc, c'est aussi ce qui rend... plus hypochondriaque les managers, tous ceux qui sont autour des sportifs de haut niveau, pour les prémunir en fait. Et aujourd'hui, on doit constater que en tout cas dans mon sport, dans les grands clubs, je voudrais bien savoir combien il y en a en France parmi les 18 de Ligue 1, les grands clubs se déplacent avec leurs cuisiniers. C'est-à-dire qu'ils investissent les cuisines de l'hôtel pour faire leur propre cuisine.
C'est pour bien manger, là. Ça, c'est pas pour...
Bien manger, mais aussi pour l'hygiène. Aussi pour que l'hygiène soit présente.
David.
Là où t'as raison, Pascal, de le souligner, c'est que voilà, quand t'es à ton meilleur niveau, c'est là où t'es le plus fragile, t'es le plus proche de te blesser. Et tu peux être le plus proche de tomber malade. Et aujourd'hui, et moi, je trouve que depuis le Covid, évidemment... les gestes barrières, etc. Il y a j'ai vu aussi des sportifs de niveau qui serrent plus trop les mains quand ils arrivent à des échéances.
Il y a des changements de comportement.
Ouais, donc ça check du coude, quoi. J'ai déjà vu ça, quoi. Voilà, parce que les mains, ça peut transmettre des virus, quoi. Donc.
Non, mais parce que en plus le sport de haut niveau, c'est ça. Vous êtes toujours en train de jouer avec la ligne, en fait, hein, entre le. Ça. Voilà, on dit souvent que vous jouez jamais à 100% niveau des blessures. On joue jamais à 100% aussi, j'imagine, de sa forme.
Ça dépend des sports, après. Dans le sport que j'ai fait.
Et en plus, tu peux pas te soigner avec ce que tu veux.
Attends d'être à 100% et de pas avoir mal, tu fais un match sur 10. Quoi.
Non, mais ce que je disais, c'est que
tu joues jamais.
Non, mais ce que je disais aussi, c'est que tu peux pas prendre n'importe quel médicament aussi. Il y a des protocoles antidopage.
T'as raison de le dire. Ouais.
Non, mais Sarah,
tu penses
jouer avec ça, quoi.
Tu te fais, je sais pas, tu te chopes une petite grippe ou un petit virus, tu te dis, je vais me rendre, là je parle d'un truc qui est totalement basique, du guronzan, parce qu'il faut retrouver, oui, mais t'as un contrôle et que t'as pris 5 guronzan pendant une semaine,
t'es positif,
quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, il y a cette comment dire,
ce spectre.
C'est pas cette psycho, oui, ce spectre de dire, ok, j'ai besoin d'un coup de fouet ou j'ai besoin de retrouver la forme parce que j'ai chopé un petit microbe qui passait par là. Bah, tu peux, si tu laisses le temps faire son œuvre, et bah, t'es pas prêt pour ta compétition. Et si tu prends un médicament, bah, tu t'exposes aussi à quoi il est composé. Donc, mais c'est vrai que je disais que j'étais beaucoup plus jeune que Pascal. Mais non, mais on vient tous à peu près de la même génération. Non, mais non, Pascal, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Ouais, la vérité, c'est qu'on n'est pas très loin. Mais c'est que, en plus, ça a tellement évolué depuis le temps où nous étions sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que la performance, l'amélioration de la performance, elle est aussi liée à tous les à côté, la performance qu'on peut y mettre dans tous les à côté.
Et bah aujourd'hui, les médecins ont pris un rôle hyper important dans les staffs aussi. Hein.
C'est pour ça que Sarah, tu parlais des médicaments, mais moi j'avais un réflexe, c'est que dès que j'avais un truc qui n'allait pas, j'appelais mon médecin pour savoir si j'avais le droit de prendre quelconque médicament, quoi.
Ah ouais, c'est vrai, t'as pris quoi, ton médecin généraliste ou le médecin du club?
Le médecin du club. Il me disait, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que je peux prendre?
Pour pas être positif.
Ou, à l'inverse, tu vois, quand tu ressens quelque chose et que tu veux aller vite, tu dis, est-ce que j'ai le droit de prendre ça, quoi. Donc, et ça devrait exister dans toutes les infrastructures. Je suis souvent surpris des sportifs de haut niveau qui disent,
j'ai
pris ça et je savais pas que c'était interdit. Il faut inverser la démarche aussi. Mais oui, ça fait partie de cette psychose de pas être performant, d'être malade.
Notre sport, les garçons sont sensibilisés. Hein, ils ne prennent rien sans l'autorisation du médecin.
Sans demander.
Il faut aussi savoir pour nos auditeurs que dans n'importe quel sport professionnel, aujourd'hui, vous avez des suivis longitudinaux, vous avez des contrôles inopinés, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'entraînement.
Vous avez le passeport.
Ils contrôlent tout le monde.
Passeport biologique.
Voilà. Après, pour prendre ton petit paracétamol, ça va aller, je pense, non?
Oui, parce que c'est pas inscrit au tableau, mais
bien sûr.
Tu as la liste des médicaments qui sont inscrits au tableau.
Oui, mais et cette liste, elle évolue.
Dans tous les sports, les corticoïdes, par exemple, c'est difficile, quoi. Non, mais c'est vrai. Jérôme le dit souvent sur le Tour de France. Il y a des équipes qui veulent pas les utiliser, par exemple. Et puis c'est un peu encadré aussi également. Donc il faut faire attention.
Quand tu es asthmatique et que tu dois avoir ton traitement, enfin, je veux dire, il y a aussi des autorisations.
À une époque, il y avait beaucoup d'asthmatiques.
Ouais, c'est vrai, il y a des sports où il y a beaucoup d'asthmatiques, il y a eu des recrudescences, et des périodes aussi, des époques.
Oui, il y a des périodes. Et puis après, ils ont évolué, ils ont trouvé d'autres sources d'amélioration.
Non, mais puis après, il y a des sports qui sont aussi plus ou moins compliqués. Par exemple, dans le Tour de France, là, on le disait, quand tu es dans un peloton de 200 coureurs, malheureusement, s'il y en a un qui est malade, tu es tellement proche toute la journée que ça pose problème à tout le monde. Le tennis, tu es dans un contre un face à l'autre en face. Bon, a priori, les distances de sécurité.
Les distances, c'est à 23,77
mètres. Mais bon, t'as les payeurs lundi, tout ça. Une mêlée, par exemple. Ouais, voilà, il y en a un qui coule du nez.
Ça me paraît plus proche que sur un peloton. Pardon. Non. Un peloton, t'es en extérieur.
Non, mais attends, c'est déjà arrivé ça que dans une mêlée, quoi. Dans une mêlée, il y en a un qui rend malade tout le monde.
Non, j'ai pas ce souvenir-là.
T'imagines le truc. On fait des mêlées qu'on se touche avec les coudes.
Il y a tout le pack qu'à la gastro.
Ouais. Et ben voilà, 11h26, dimanche. Bon brunch à tous. Allez, on referme la porte du vestiaire. Mais c'est intéressant d'avoir un petit peu l'envers du décor, hein, parce que vous tombez malade comme tout le monde, hein, en fait. Sauf qu'il y a des choses à gérer, il y a les compétitions qui arrivent, il y a la pression, il y a ce qu'il faut prendre et ne pas prendre, et c'est forcément ce que se posent les coureurs du Tour. Hein. Par exemple, il y a Arnaud Daly, un des sprinteurs qui a abandonné il y a quelques jours, certainement parce qu'à un moment donné, malade, il pouvait pas se soigner comme il voulait, et puis accessoirement parce qu'en plus, ils ont 200 km à faire tous les jours, les amis, sous 40 degrés. Quand t'es malade, imagine faire ça.